Là, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes à toi pour l'éternité parce que c'est toi qui nous as rachetés. Nous te prions de nous guider dans ces instants, dans l'étude de ta parole, que tu puisses disposer nos cœurs et nous éclairer, nous illuminer par ton esprit. Donne-nous de comprendre ta parole et surtout de la mettre en pratique à la gloire de ton nom et pour notre bien. Amen. Voilà, nous continuons notre petite série d'études sur la... C'est sur quoi, là? La crainte de Dieu, hein, la crainte de Dieu. Donc, est-ce que c'est un thème qui est important? Oui, on a vu que c'est un thème qui balaye toute l'écriture. Hein, et que les craignants Dieu, ce qu'on appelle les craignants Dieu, sont ceux qui sont désignés comme les véritables serviteurs de Dieu. On va revenir là-dessus un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Et puis aussi que ceux qui ne craignent pas Dieu, ce sont ceux qui sont considérés comme non serviteurs de Dieu. Mais le chrétien, en tout cas, est un quelqu'un qui craint Dieu. Alors, on avait tenté de définir un petit peu ce que c'est que la crainte, faire la différence un petit peu entre la peur véritable et la crainte. Mais on a dit que dans l'expression de la crainte de Dieu contient quand même un peu les deux sens, hein. Le sens, donc, d'une certaine appréhension, pas une peur que Dieu va nous faire du tort, c'est pas du tout, mais ça peut être une certaine crainte, une certaine peur d'offenser, de faire ce qui est contraire à sa volonté. Bon, la crainte contient cet aspect-là, puis aussi l'aspect qu'on appelle un peu plus le respect, la crainte respectueuse, la vénération, un petit peu. Et ces deux aspects sont dans la crainte. Alors bien sûr, le croyant n'a pas la même crainte que le non-croyant quand il se trouve devant le jugement de Dieu, parce que le croyant a la certitude que pour lui, il n'y a plus de condamnation, d'accord, en vertu du sacrifice de Christ et du fait qu'il a été placé au bénéfice du sacrifice de Christ. Mais néanmoins, celui qui est un enfant de Dieu, il continue à vivre dans la crainte de Dieu. Alors, on a essayé de voir à partir de plusieurs versets ce que c'est que la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais que l'on puisse voir, c'est un peu ceci. C'est le rapport entre la crainte de Dieu et notre conduite. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est simplement intellectuel? Okay. Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit avoir une implication dans ma vie? Un petit peu. Alors, j'ai fait des petites feuilles aujourd'hui. Hein, donc, vous avez droit à des petites feuilles. La dernière fois, je n'avais pas eu le temps, mais là, j'ai... Tu peux distribuer, s'il te plaît? Il y a quelques petits trous. J'espère qu'il y a assez, sinon il y en a quelques-unes encore là-haut. Hein. Donc, la crainte de Dieu, on a lu ce verset déjà dans, je vais l'afficher ici, dans 1 Pierre 1:17, qui dit, « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, votre séjour sur la terre. » Alors, c'est intéressant ce verset. Pourquoi? Parce qu'il dit que vous invoquez Dieu comme étant votre Père. Donc, vous avez une relation avec lui. Il n'est pas simplement Dieu, il est votre Père. Vous êtes son enfant. Il dit, si donc vous l'invoquez comme tel, eh bien, il dit, vous devez donc vous conduire, comment? Avec crainte, pendant le temps de votre séjour sur la terre. Autrement dit, la relation que l'on prétend avoir avec Dieu, la relation filiale que l'on prétend avoir avec Dieu, doit se traduire par une conduite qui manifeste la crainte de Dieu, qui manifeste le respect de Dieu, qui manifeste la vénération pour Dieu. Et donc c'est ce que ce passage nous dit ici. Alors, on va voir premièrement que la crainte de Dieu, en fait, motive la conduite pieuse. Hein. La crainte de Dieu motive la conduite pieuse. Donc, je vous ai mis ça sur le petit. Il y a ici, hein, la crainte. Hop là. La crainte de Dieu motive la conduite pieuse. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans le petit trou ici. Alors, on peut penser peut-être à plusieurs passages de la Bible hein, qui montrent cela, mais on va d'abord regarder la chose contraire, c'est-à-dire le fait que l'absence de crainte conduit à l'impiété. On avait cité pour cela plusieurs versets là, il y a la toute première étude, mais on va revenir sur le verset de Jérémie. Donc je vous propose de chercher Jérémie chapitre 5 et au verset 22. Jérémie 5 verset 22. Et nous allons lire ensemble ce verset. Donc Jérémie 5 verset 22 ici, on va lire ça. Donc on l'a là ici. Quelqu'un veut le lire? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? D'abord, ça commence avec une question, hein. Ne me craindrez-vous pas, hein. Dieu s'étonne que ce peuple, on pourrait dire, ne le craigne pas. Et puis, il va décrire un petit peu ce peuple. Alors, je vais souligner, on peut voir à partir du, alors j'ai pas mis les numéros des versets ici, mais, au milieu du texte là, hein, il parle de ce peuple. Comment est-ce que le peuple est désigné ici? Donc ce peuple-là, il est désigné comment? La première chose qu'il dit de lui, c'est quoi? Il a un cœur indocile. On va essayer de souligner tout ce qu'il dit ici. Il est rebelle. Il se révolte. Bon, après, ils s'en vont. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils disent dans leur cœur, ça veut dire ils pensent, ça c'est le siège de leur pensée. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Ils ne disent pas, pardon, dans leur cœur, craignons l'Éternel. Donc Dieu dit ici, ne me craindrez-vous pas. Et puis il dit, voilà tout ce que le peuple fait. C'est un cœur rebelle, indocile, etc. Donc il montre vraiment, c'est une impiété de la part de ce peuple. Et puis il termine en disant que ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne disent pas, c'est craignons l'Éternel. Autrement dit, il montre que tout ce qu'on peut décrire de ce peuple ici, son cœur indocile, sa rébellion, sa révolte, etc., c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Et ils ne craignent pas Dieu alors que Dieu a fait quoi ici? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce passage? Il a dit, c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Hein, il dit, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants, ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Donc Dieu dit quelque part qu'il est tout puissant, c'est lui qui règle toutes choses. Hein, c'est lui qui règle toutes choses. Mais il dit que ce peuple, au lieu de considérer la puissance de Dieu et d'avoir dans le cœur une crainte de Dieu, bien, il s'en va et ils ne se disent même pas dans leur cœur, craignons l'Éternel. Ayons la crainte pour ce grand Dieu qui fait de telles choses. Et donc, vous voyez ici, c'est la caractéristique même de l'impie. Et quand quelqu'un, même en tant qu'enfant de Dieu, mis au bénéfice de tout ce que Dieu lui accorde, repart, s'en va, comme il dit ici, sans dire dans son cœur que mon cœur craint Dieu, si j'ose dire les choses ainsi, à cause de tout ce qu'il a fait, à cause de tout ce qu'il t'a accordé, de sa grandeur, de son omniscience et tout ça, eh bien il dit, c'est une attitude de rébellion qui est décrite ici. Donc l'impiété est manifestée par le fait que le peuple ne... Donc deuxième verset, hein, ici qu'on peut voir d'abord, donc on pourrait dire ici que la rébellion, souligner tout ça, que la rébellion, l'impiété, ça naît d'un cœur qui ne pense pas à craindre Dieu malgré ses bien fait. Alors c'est écrit un peu petit, la prochaine fois je ferai un peu plus gros, hein. Je pensais que ça aurait été plus gros en taille de police, mais c'est un peu petit là. Ensuite, deuxième texte qu'on va lire ici dans Romains, donc je vous propose, quelqu'un veut nous lire ça ici, Romains chapitre 9, on peut lire à haute voix, qu'on puisse l'entendre. Hein.
Soit donc sans nous plus excellent.
Oui.
Nullement. Car nous avons déjà trouvé les Grecs sans sous l'empire du péché. Sous l'empire du péché, il n'y a point de juste par même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. De leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'acide. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Leur destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leur vie.
Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul cite des passages hein, de l'Ancien Testament, psaume 14 par exemple, où il est dit toutes ces choses-là de, il décrit l'impie, hein, comment celui qui ne connaît pas Dieu est. Et il les décrit comme ne connaissant pas Dieu, ne le cherchant pas, n'étant pas intelligent. Mais surtout, il souligne ici plusieurs choses. Hop, il faut que je retourne en arrière, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Ça m'arrive. Voilà, je remets le verset. Donc, il souligne ici plusieurs choses. Ici, c'est que tous sont, comment, égarés, ils sont pervertis. Hein. Je souligne exprès parce que ça sonne, ça revient comme ça, ça il martèle hein, avec ces citations, qu'on puisse bien comprendre comment sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, ça veut dire que tous font le mal, pas même un seul, d'accord. Et puis leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Ils ont la langue pour tromper, ils ont leurs lèvres venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils marchent pour répandre le sang. Et quand on regarde autour de nous, hein, on voit tout ça. Hein, quand on entend les gens parler, même parfois, hein, quand on connaît pas Dieu, on parle. C'est pas des bonnes choses parfois qui sortent de la bouche. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Ils détruisent, hein, la destruction, le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et puis, il termine ici avec cette conclusion. Tout ça, dit que ça, c'est parce que la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux, voilà comment ils sont décrits. Et ils sont comme cela parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Donc on peut bien souligner ici que le péché, d'accord, dans la conduite, est la conséquence de l'absence de la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu, eh bien, il y a le péché qui caractérise la conduite. Et quand le chrétien pêche et pêche continuellement, ça veut dire qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Il devrait se repentir, hein. Parce que ce qui caractérise justement le croyant, c'est qu'il a, on l'a dit la dernière fois, hein, il reçoit l'esprit de l'Éternel qui est appelé un esprit de sagesse, mais aussi de crainte. Ésaïe chapitre 8, je crois qu'il dit ça, ou 11 plutôt, il dit c'est un esprit de crainte. Le Saint-Esprit est aussi un esprit de crainte que Dieu nous donne. Donc ça c'est le premier point que je voudrais souligner ici. La deuxième chose, ici, c'est que la crainte de Dieu, donc c'est un peu notre titre ici, c'est la motivation de la bonne conduite. Alors j'ai mis ici, on va essayer de voir avec plusieurs versets qui sont là, j'ai pas mis les titres, mais plusieurs versets qui sont là, on va pas les lire tous, mais peut-être on peut en lire un ou deux, pour essayer de trouver un peu, alors je vous laisse travailler pendant 5 minutes, hein. Allez, pas tout ça, 4 minutes, pour trouver ce qui va dans les pointillés ici, hein. Colossiens 3, par exemple, verset 22. Quelles sont les choses ici qui sont motivées par la crainte de Dieu? Parce qu'on a dit qu'elles motivent à une bonne conduite. Qu'est-ce qui, dans la conduite, dans ces versets-là, qui sont ici, est motivé par la crainte de Dieu? Alors, je vous laisse chercher un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les versets hein, pour le trouver. J'ai mis quelques. Pour certains, j'en ai mis beaucoup. Pour d'autres, j'en ai mis un. Mais qui a fini pour avoir 20 sur 20? On va y aller, on va faire ensemble, parce que je ne vais pas vous garder trop longtemps non plus. Donc, à quoi est-ce qu'elle motive? La première ligne, qu'est-ce que vous avez noté? La soumission à Dieu, d'accord? Le Colossiens 3, 22 dit quoi? Ici, ça parle des serviteurs qui doivent être soumis, obéissants à leur maître. Puis on trouve dans Éphésiens 5, 21, il dit « Soyez soumis les uns aux autres, hein, soumettez-vous les uns aux autres. » Et puis 1 Pierre 2, 18 qu'on avait étudié déjà dans les prédications du dimanche où il est question de la même chose. D'accord? Donc là, on est d'accord, premier point, la soumission. Ici. Deuxième, est-ce que vous avez trouvé? Là, sanctification, d'accord, puisque on voit bien 2 Corinthiens 7, c'est clair, hein, je crois, 7.1, quelqu'un là peut le lire là, à haute voix, 2 Corinthiens 7.1. Voilà, la sanctification dans la crainte de Dieu, la soumission dans la crainte de Dieu. Le suivant, l'humilité, très bien, l'humilité aussi dans la crainte de Dieu. Ah, celui-là peut-être, je ne sais pas si vous allez trouver. Le prochain, c'était Genèse 42, 18, donc Genèse 42, 18, c'est quoi? C'est Joseph devant ses frères, qui leur dit quoi en fait? Il leur dit, demande d'obéir. Il dit, faites ceci et vous vivrez. Faites quoi? Qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Voilà, ils doivent partir, emporter du blé pour leur père et puis revenir en laissant ramener leur frère, je crois. Hein? Voilà. Et donc, il dit, faites ceci et vous vivrez. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Je crains Dieu. C'est ça que Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire quelque part ici? Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça, je crains Dieu? Pour leur donner, oui, une assurance de quoi? Très bien, il va tenir sa parole. Il dit, faites ceci, vous vivrez. Il ajoute, je crains Dieu. Okay? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur que je ne tienne pas parole et que je change par rapport à ce que j'ai dit, je crains Dieu. Donc, il utilise, et il sait aussi que c'est pour ses frères, ça résonne quelque part. Hein. Quand on dit je crains Dieu, ça résonne, et ses frères aussi. Et donc, il souligne le fait ici qu'il va tenir sa parole. Donc, le point ici, c'était quoi? C'est, elle motive à, je veux dire, on pourrait dire que la crainte de Dieu la motive à faire une bonne conduite ici. Ben, le respect, on pourrait le dire comme ça, hein, elle motive à respecter sa parole ou c'est le respect de la parole donnée. J'avais mis le respect de la parole donnée, mais ça va pas avec elle motive à, mais bon, vous pouvez le mettre comme ça. Oui, l'engagement, le respect de la parole, le respect de sa parole. Ça, c'est quelque chose qui est important, hein, le fait de, la crainte de Dieu fait que l'on va tenir sa parole. Quand on tient pas sa parole, c'est parce qu'on craint pas Dieu. Et par exemple, dans Malachie, ça me vient à l'esprit, Malachie, vous rappelez, lorsque Dieu parle, et il dit concernant tous ces Israélites qui avaient divorcé de leurs femmes pour prendre des femmes plus jeunes. Et il dit, l'Éternel a été témoin, d'accord, lors de ton alliance avec la femme de ta jeunesse. Il dit que Dieu a été témoin de ces choses-là. Et parce que vous n'avez pas, quelque part, craint Dieu, voilà, vous avez abandonné vos femmes pour en épouser d'autres. Et ça, c'est parce qu'il n'y avait pas la crainte de Dieu. Alors, le prochain. 2 Corinthiens 5, 11. L'évangélisation. Hein, qu'est-ce qu'il dit ici dans 2 Corinthiens 5, 11? Oui. Voilà. Donc, nous cherchons à convaincre les hommes. Quand on cherche à partager la parole, même à l'expliquer, à convaincre quelqu'un, c'est parce qu'on craint Dieu. Hein. Connaissant la crainte de Dieu, eh bien, nous le faisons. D'accord ? On veut honorer Dieu dans ce qu'il commande de faire, dans le fait de le faire connaître. Et puis, aussi, l'apôtre Paul et les autres, eux-mêmes ayant la crainte de Dieu, eh bien, ils veulent la partager aussi aux autres pour qu'ils ne se conduisent pas n'importe comment et qu'ils apprennent à craindre Dieu aussi. Hein? Ensuite, le prochain. Alors, il y a plusieurs versets ici. Exode 17.1, vous vous rappelez, ça c'est l'épisode avec les sages-femmes. D'accord? Alors, on peut lire aussi Proverbe 16.6, peut-être nous donner un bon résumé de ce point. Ici, quelqu'un, Proverbe 16.6, ici.
Par la bonté et la fidélité, on est et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? L'intégrité, on pourrait dire ça. Bon, je l'ai mis autrement. Il dit, par la crainte de l'Éternel, on fait quoi? On se détourne du mal. Donc c'est, j'ai appelé ça l'éloignement du mal. Hein. La crainte motive à s'éloigner du mal. La crainte de Dieu nous motive à s'éloigner du mal. Donc il y a pas mal de versets pour lesquels on peut le voir ici. Hein. Donc la crainte de Dieu motive à s'éloigner du mal. Ici. Et puis, Hébreux 12, 28. À quoi motive la crainte de Dieu? L'adoration, très bien. C'est le culte ici, hein, le culte qui est rendu avec piété et avec crainte. On rend à Dieu un culte parce qu'on le craint aussi, on le vénère. Ça, c'est important. Donc, quand on supprime le culte facilement, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas la crainte de Dieu devant les yeux. Et que n'importe quoi peut remplacer le culte. Trop de travail, examen, ou autre chose, ou fatigue, ou ceci, on se dit, bon, Dieu comprendra, hein. Non. Hein, donc ça, c'est important à voir. Et puis, il reste un dernier point. C'est quoi ce dernier point, ici? Là? L'action, oui. L'obéissance, j'avais déjà mis. L'obéissance, ici. Hein. On voit bien que il s'agit ici de qui? De Noé, qui a obéi à Dieu. Et la Bible dit qu'il avait une crainte respectueuse. C'est par la foi que Noé, comment il dit après? Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Voilà, hein. C'est extraordinaire. Il est saisi d'une crainte respectueuse de Dieu. Et il construit une arche. D'accord? Alors qu'il ne voyait pas. Il est averti de choses qui n'étaient pas sous ses yeux. Voilà. Donc on voit ici, c'est quelques versets rapidement ramassés. Il y en a d'autres, hein, qui montrent que à chaque fois, il y a la crainte qui entoure ces choses, hein. Donc, dans tout ce que l'on fait, normalement, ça doit être motivé par la crainte de Dieu. Quand le chrétien agit, il agit motivé par le saint respect qu'il a pour Dieu. Et donc, le dernier point qu'on veut souligner ici, c'est comment cette crainte, on pourrait réfléchir dans les temps qui nous restent, comment cette crainte de Dieu motive la conduite pieuse? Comment est-ce que la crainte de Dieu motive la conduite pieuse? Alors, j'ai mis quatre choses ici. Premièrement, on peut voir que celui qui craint Dieu, il demeure conscient de la sainteté de Dieu. Celui qui craint Dieu, il demeure conscient de la sainteté de Dieu. 1 Pierre 1, verset 13, dit ceci. 1 Pierre 1, verset 13. Dit, c'est pourquoi signez les reins de votre entendement et soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et verset 17, donc c'est dans le même contexte, il dit, et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre, séjour sur la terre, ou votre pèlerinage. Vous voyez, il dit, vous serez saint car je suis saint. Vous serez saint dans toute votre conduite. Et il dit donc, conduisez-vous maintenant avec crainte. Cette conduite dans la sainteté est motivée par la crainte ici de Dieu. Donc celui qui craint Dieu, eh bien il est conscient de la sainteté de Dieu. Et donc il va chercher à se conduire d'une manière qui se conforme à cette sainteté de Dieu. Et puis aussi, on peut dire deuxièmement que celui qui craint Dieu, il sait que Dieu le voit. Alors je reprends des versets qu'on a déjà lus tout à l'heure, Colossiens chapitre 3, verset 22. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 22. Donc si quelqu'un l'a avant moi, vous lisez, hein. Voilà. Obéissez en toutes choses à vos maîtres, non pas seulement sous leurs yeux. Ça veut dire, ne faites pas, il y a des gens avec la touche Windows, là, il paraît qu'on peut faire des jeux vidéo, et puis quand le patron rentre dans la salle, on appuie la touche Windows, et puis il y a le travail qui apparaît sur l'écran. Hein. Donc là, on travaille sous les yeux du patron, et puis quand il n'est pas là, on fait le jeu vidéo préféré. Alors, il dit, non, on n'a pas, en tant que chrétien, on ne fait pas cela. On travaille pas seulement lorsqu'on est observé. Alors, pourquoi dit-il qu'il ne faut pas travailler seulement lorsqu'on est observé? Parce que Dieu nous voit. C'est ce qu'il dit, en fait, dans le passage. En gros, il dit, non comme, au verset 22, il dit, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Il dit, votre crainte du Seigneur doit motiver la manière avec laquelle vous travaillez. C'est pas que le patron vous voit, vous travaillez, il faut penser qu'il y a au-dessus du patron, il y a Dieu qui vous voit et c'est lui que vous devez craindre. D'accord. Et la conscience du fait que Dieu nous voit, eh bien, amène cette crainte de Dieu qui aide à avoir une conduite, même dans le milieu du travail, qui est une conduite qui est conforme à la parole de Dieu. Et puis encore un autre point ici, celui qui craint Dieu croit tout ce qu'il dit, que tout ce qu'il dit se réalise. Parfois, on peut connaître des choses concernant Dieu, mais ne pas croire vraiment que ça va se réaliser. Par exemple, une fois, je parle avec quelqu'un, avec un frère, je dis, bon, Dieu, le Seigneur pourrait réapparaître, venir à n'importe quel moment. Il dit, oui, c'est vrai, mais en même temps, il dit, on a du mal à croire que ça va se réaliser vraiment, parce que, bon, ça fait un petit peu de temps. Il y a des choses que l'on peut intégrer dans notre pensée, mais parfois, on ne vit pas comme si on les croit réellement. Alors, c'est intéressant de voir l'exemple de Noé ici, dans Hébreux chapitre 11, on peut reprendre ce passage, Hébreux chapitre 11, et Noé dit, dit de Noé, Hébreux chapitre 11, et au verset 7, il dit, C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. À quoi est-ce que Noé a cru? Ce que Dieu a dit. Mais donnez-moi, qu'est-ce qu'il a cru de ce que Dieu a dit? Déluge, ça c'est une chose. Oui, ça n'existait pas encore. Donc, la Bible dit que c'était des choses qu'il n'avait pas vues. D'accord? Donc il ne pouvait même pas savoir comment ça pourrait se présenter. D'accord? Mais il a cru à deux choses. Premièrement, le déluge que Dieu annonçait. Et deuxièmement, quoi? Qu'il allait sauver sa famille dans l'arche. Que tout le monde allait périr, qu'il allait sauver sa famille dans l'arche. Il a cru ces choses. Hein, la Bible dit ici, hein. Dans le verset qu'on vient de lire, il a fait une arche pour sauver sa famille. Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Le texte le dit, il a été saisi d'une crainte respectueuse de Dieu. Au point que même s'il ne voyait pas, le déluge, je ne savais même pas ce que c'était peut-être, hein, l'eau, la pluie, d'accord? Et il croit ce que Dieu lui dit. Et il croit tellement, il a telle crainte de Dieu qu'il se met à l'œuvre, qu'il prêche, parce qu'il a prêché. Là, il y a un texte où Noé est appelé le prédicateur de justice. Hein, le prédicateur de justice. Il est appelé comme ça, Noé, dans 2 Pierre, hein, dans la deuxième épître de Pierre. Et il a prêché à ses contemporains. Alors, on estime que c'est pendant une période de 120 ans, c'est-à-dire au moment où Dieu dit dans Genèse chapitre 6, je crois, au verset 3, quelque chose comme ça. Et donc, à peu près 120 ans. Et il a prêché la parole de Dieu, saisi d'une crainte respectueuse. Il ne voyait pas les choses arriver, mais il a construit l'arche telle que Dieu lui a demandé. Et il a cru qu'il allait sauver sa famille et que le déluge allait venir. Tout ça parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et donc, comment est-ce que la crainte de Dieu motive à une conduite pieuse? Parce que celui qui craint Dieu vraiment, qui a sa grandeur, sa puissance, sa parole, sa sainteté devant les yeux, et qui croit ce que Dieu dit, eh bien, celui qui craint Dieu, pardon, il croit vraiment à tout ce que Dieu dit. Mais il n'y croit pas simplement intellectuellement, il y croit pour pouvoir y mettre sa confiance et obéir à ce que Dieu demande de faire. Alors, croire, c'est aussi obéir, hein. Celui qui croit, il obéit. Noé, il a cru, il n'a pas dit « oui, je sais que ça va arriver, oui, je sais que ça va », mais il n'a pas été paresseux, il a mis en pratique, obéi à ce que Dieu lui avait commandé. Et puis, dernier point, ici, aussi parce que celui qui craint Dieu aussi mesure, je crois, la valeur du pardon de Dieu, et il s'éloigne du mal. On a vu ça, hein, celui qui craint Dieu, il s'éloigne du mal. Mais il y a un psaume qui dit ceci, psaume 130, on a lu avec les frères tout à l'heure, psaume 130, verset 4, je vais vous lire versets 3 et 4. Psaume 130, versets 3 et 4. Alors, psaume 130, verset 3 dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» La réponse, c'est quoi? Personne. Question rhétorique. Personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Intéressant ici, hein. On aurait pu dire, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on se réjouisse. Le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on t'aime davantage, je sais pas. Mais il dit, le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. C'est-à-dire que celui qui a conscience que Dieu lui a pardonné, comme disait le frère Christian, je crois, c'était dimanche après-midi, hein, il dit, être conscient du péché, de ce que représente le péché, être conscient du pardon que Dieu nous a accordé. Il dit, quand on est dans cette attitude-là, dans cette conscience-là des choses, on craint Dieu. On craint Dieu. Et on le craint d'une manière telle que on veut s'éloigner du péché pour lequel on a été pardonné. Et il dit donc, le pardon est auprès de toi. Il faut venir auprès du Seigneur pour être pardonné. Mais seul Dieu qui nous a pardonné a payé un tel prix. Il est tellement saint. Le prix qu'il a payé est tellement grand qu'on est saisi d'une crainte quand on est pardonné. Et cette même crainte produit aussi un éloignement du péché. On ne revient pas, comme l'Épître le dit, à ce que l'on a vomi. Le chien ne revient pas à ce qu'il a, vomi. Vous voyez ça ici, hein? Et ce psaume, il est intéressant. Il dit, qui pourrait subsister? Personne ne pourrait subsister. Mais qu'a fait Dieu? Il nous a pardonné. Il a pardonné, il a payé un prix fort pour nous pardonner. Et il dit, c'est auprès de lui que se trouve ce pardon-là. Et quand on est pardonné, eh bien, on découvre et on apprend la crainte de Dieu, la crainte qui nous éloigne de l'iniquité. Et le 2 Timothée 2,15, je crois, 2,15, je pense, dit, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. D'accord? S'il dit que Dieu est mon Père, donc j'ai été pardonné par lui, eh bien, la manière de le montrer, c'est qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et ce qui lui permet de s'éloigner de l'iniquité, c'est vraiment de connaître cette crainte de Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu. Donc nous pouvons, je t'arrête là-dessus, prier pour que Dieu, le psaume 86 dit, 11 dit, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Nous pouvons prier que Dieu dispose notre cœur à la crainte de son nom. Qu'on apprenne vraiment à le craindre, à méditer sur son pardon, méditer sur ce qu'il a fait, sur sa grandeur, sa sainteté, toutes ces choses, hein, qu'il nous a accordé, le salut qu'il nous a accordé. Et puis demander la grâce de nous détourner du mal et de vivre vraiment pour lui. Donc d'obéir par crainte de Dieu, de nous soumettre à nos parents par crainte de Dieu, de nous soumettre au patron par crainte de Dieu, d'accord, de soumettre la femme à son mari par crainte de Dieu, d'accord. Et quelqu'un disait, nous devons même apprendre à enseigner à nos enfants la crainte de Dieu, leur enseigner la crainte de Dieu. Et quand la crainte de Dieu est devant les yeux, eh bien, on voit que on peut servir dans l'humilité, on peut évangéliser comme il faut, on peut servir Dieu comme il demande, il nous commande de le servir. On va prier, on va clore cet instant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui suscites cette crainte en nous. Tu nous donnes ton esprit par lequel nous pouvons te craindre. Tu as dit que tu mets toi-même ta crainte dans les cœurs de ceux que tu régénères. Mais nous te prions que tu nous aides à te craindre, à croître dans cette crainte. Seigneur, à nous détourner du mal, à croire ta parole, à croire tout ce que tu nous dis, à être comme Noé qui se soumettait même quand il ne voyait rien et qui obéissait à ta parole. Seigneur, donne-nous cette crainte qui nous pousse à t'adorer avec piété, avec tremblement, qui nous pousse à travailler à notre salut, Seigneur, avec tremblement. Donne-nous cette crainte qui est le commencement de la sagesse. Seigneur, donne-nous cette crainte qui nous pousse à t'aimer. Nous te prions toutes ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, que Dieu